Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, tome 1, partie 2. Le deuxième sexe a été écrit en 1949 par Simone de Beauvoir, qui a été une philosophe, écrivaine et théoricienne du féminisme. Avec son compagnon Jean-Paul Sartre, ils sont les principaux représentants de l'existentialisme. En quelques mots, l'existentialisme, c'est un dogme qui met l'existence de l'homme au centre de ses réflexions. L'existentialisme considère l'homme comme un être unique et libre, qui est responsable non seulement de ses actes et de son destin, mais également des valeurs qu'il décide d'adopter. L'ouvrage Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est un essai philosophique qui tend à montrer les inégalités hommes-femmes. Elle y présente sa thèse majeure, celle de la femme comme figure de l'autre, comme figure aliénée par la culture dominante masculine. Pour cela, elle s'appuie sur de très nombreux constats biologiques, historiques et philosophiques. Dans sa célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », Simone de Beauvoir cherche à démontrer que les dissemblances entre femmes et hommes sont d'ordre culturel. Être une femme n'est pas naturel, cela résulte d'un héritage historique. C'est ce point de vue historique que je vais présenter dans cet audio. Nous allons donc voir comment l'histoire et la société ont fabriqué la femme. Simone de Beauvoir commence par dire « Ce monde a toujours appartenu au mâle ». Elle explique que deux catégories humaines qui se font face sont forcément en tension et que cela engendre à la fin l'oppression d'une catégorie sous l'autre. Et donc voilà pourquoi, depuis toujours, les femmes sont sous le joug des hommes. Mais la question est, quel privilège leur a permis d'accomplir cette volonté? Autrement dit, qu'est-ce qui a permis aux hommes de se décider supérieurs à l'autre sexe? Simone de Beauvoir dit qu'il y a inévitablement une différence entre les capacités physiques des hommes et des femmes. Mais elle explique qu'à l'origine, chez les peuples primitifs, la musculature de la femme et son appareil respiratoire étaient aussi développés que chez l'homme. En gros, de Beauvoir explique que les femmes et les hommes étaient autrefois égaux, mais c'est la sexualisation de la femme qui l'a rendue esclave. En effet, lorsque les peuples étaient nomades, le rôle reproducteur de la femme était reconnu, car la fécondation avait quelque chose de mystique, ce qui permettait à la femme d'être égale de l'homme. Mais quand les peuples se sont sédentarisés, la femme fut vouée à la procréation et à des tâches secondaires. Dépouillée de son importance pratique et de son prestige mystique, elle n'apparaît plus que comme une servante. Ensuite, de Beauvoir utilise la dialectique du maître et de l'esclave développée par Hegel pour rendre compte de l'oppression des femmes. L'homme a une conscience impérialiste. Il cherche à se poser en niant l'autre. Or, l'homme, face aux autres hommes, rencontre la même exigence chez eux. La facilité est donc de trouver un être biologiquement inférieur pour en faire son esclave. Bingo, la femme. On a vu dans la dialectique du maître et de l'esclave que ces deux figures veulent être reconnues, et la femme qui devient alors l'autre absolu, l'autre inessentiel, dépend de la reconnaissance que lui accorde l'homme. La femme donne la vie alors que l'homme risque sa vie, ce qui, chez Hegel, est le centre et le signe de victoire de la conscience sur l'autre, car le maître, c'est celui qui a tenu plus à la conscience qu'à la mort. Celui qui tient plus à la vie que l'autre, étant le perdant de la lutte pour la reconnaissance. Dans le second chapitre, Simone de Beauvoir écrit « Détrônée par l'avènement de la propriété privée, c'est à la propriété privée que le sort de la femme est lié, à travers les siècles, pour une grande partie son histoire, se confond avec l'histoire de l'héritage. » En fait, la femme ne possède pas, elle est possédée. Simone de Beauvoir condamne le patriarcat, qui est un système social dans lequel l'homme, en tant que père, et dépositaire de l'autorité au sein de la famille. Les femmes appartiennent d'abord à leur père, puis à leur mari. En fait, à aucun moment de leur vie, les femmes seront indépendantes d'un homme. Dans le chapitre 3, l'évolution de la condition de la femme ne s'est pas poursuivie continuellement, dit Simone. Avec les grandes invasions, toute la civilisation est remise en question. De Beauvoir attaque l'Église qui rattache le sexe féminin au péché et à la tentation. L'idéologie chrétienne n'a pas peu contribué à l'oppression de la femme. Elle écrit « Sans doute y a-t-il dans l'Évangile un souffle de charité qui s'étend aussi bien aux femmes qu'aux lépreux. Ce sont les petites gens, les esclaves et les femmes qui s'attachent le plus passionnellement à la loi nouvelle. » Durant la Renaissance, les choses s'améliorent, mais dans des circonstances très diverses. Sainte Catherine manifeste avec éclat qu'une femme peut s'élever aussi haut qu'un homme, quand par un hasard étonnant, les chances d'un homme lui sont données. Condorcet, qui veut que les femmes aient accès à la politique, dit « On dit que les femmes n'avaient pas proprement le sentiment de la justice, qu'elles obéissaient plutôt à leurs sentiments qu'à leur conscience. Mais ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui cause cette différence. » Ainsi, il montre bien que les femmes et les hommes sont inégaux en ce qui concerne l'éducation. Ainsi, bien que les femmes soient encore peu éduquées, certaines femmes de la société du XVIIe et du XVIIIe siècle parviennent à acquérir des connaissances supérieures à celles de leur époux. En s'instruisant, à travers des entretiens, des lectures, l'enseignement de précepteurs privés ou des conférences publiques. Cependant, les femmes n'obtiennent aucune reconnaissance pour leur travail. Au chapitre 4, Simone de Beauvoir écrit « On pourrait s'attendre que la Révolution eût changé le sort de la femme. Il n'en fut rien. Cette révolution bourgeoise fut respectueuse des institutions et des valeurs bourgeoises, et elle fut faite à peu près exclusivement par les hommes. Alors que les revendications féministes, comme la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, écrite en 1989, fleurissent pendant la Révolution, le code impérial napoléonien établit plus strictement une hiérarchie des sexes. Bien que la condition féminine s'améliore, des débats sociétaux comme le droit à l'avortement ou encore la contraception montrent que la soumission féminine est encore bien présente et la société encore bien trop patriarcale. Pour Simone de Beauvoir, le nœud de l'émancipation de la femme réside dans la convergence de deux facteurs : la participation à la production et l'affranchissement de l'esclavage de la reproduction. Autrement dit, la femme peut s'émanciper si elle a un travail et des méthodes contraceptives. Cependant, Simone de Beauvoir montre que l'homme a toujours tenu le sort de la femme entre ses mains. Il a été à l'origine de son esclavagisme aussi bien que de sa libération, et qu'il n'en a pas décidé en fonction de son intérêt. C'est à ses propres projets, à ses craintes, à ses besoins qu'il a eu égard. Par exemple, c'est le régime social fondé sur la propriété privée qui a entraîné la tutelle de la femme mariée. C'est la révolution technique réalisée par les hommes qui a affranchi les femmes d'aujourd'hui. Et quand on parle de la contraception qui a été une victoire pour les femmes, c'est une évolution de l'étiquette masculine qui a amené la réduction des nombreuses familles par le birth control. En gros, ce sont des hommes qui contrôlent le destin des femmes car ils sont en position de supériorité. Et ce que Simone de Beauvoir veut nous montrer, c'est que chaque victoire pour la femme est en fait une victoire pour les hommes car ils ont encore pu, une fois de plus, montrer leur supériorité technique ou psychologique. Un autre exemple qui montre que la femme ne peut pas être libre partout, c'est que si la femme mariée a eu sa place dans la société, mais n'y jouit d'aucun droit, tandis que la femme célibataire, fille honnête ou prostituée, a toutes les capacités de l'homme, mais jusqu'à ce siècle, elle était plus ou moins exclue de la vie sociale. De Beauvoir ajoute un autre paradoxe qui est « Pour changer la face du monde, il faut y être d'abord solidement ancré, mais les femmes solidement enracinées dans la société sont celles qui lui sont le plus soumises. » Pour Simone de Beauvoir, la période que nous traversons est une période de transition. Ce monde qui a toujours appartenu aux hommes est encore entre leurs mains. Les institutions et les valeurs de la civilisation patriarcale en grande partie survivent. De plus, le privilège économique détenu par les hommes, leurs valeurs sociales, le prestige du mariage, l'utilité d'un appui masculin, tout engage les femmes à vouloir ardemment plaire aux hommes. Elles sont encore dans l'ensemble en situation de vassalité. En effet, bien que l'asservissement physique de la femme s'améliore, la femme reste psychologiquement asservie à l'homme. Je finirai par une dernière citation de Simone de Beauvoir. « L'antisémitisme n'est pas un problème juif, c'est notre problème. Ainsi, le problème de la femme a toujours été un problème d'homme. »